Ici aussi, les voisins sont bruyants. Ici aussi, on vit à 300 à l'heure. Ici aussi, il y a des bouchons. Trois messages parmi d'autres, accompagnés de belles images pour vanter une Bretagne connectée, riche de sa culture et de son environnement. Trois messages affichés cette dernière semaine en gare Montparnasse pour draguer les Parisiens. Le conseil régional a décidé de taper fort avec cette campagne de communication baptisée « Passer à l'Ouest », où quand des modes de vie et des richesses naturelles deviennent des éléments d'identification suffisamment puissants pour représenter une région. Mais les communicants n'ont pas le monopole du récit régional. Bien avant les institutions, les artistes ont eux aussi partagé au grand public leur certaine idée de la Bretagne. Des idées multiples qui dépassent dans le temps et l'espace la simple impression donnée par une peinture, un texte ou une photographie. Alors que disent les œuvres d'art d'une époque et d'un contexte économique et social? Quels sentiments globaux surgissent quand on représente un fest-noz, une réalisation architecturale ou bien une scène de vie quotidienne en pleine campagne? Et comment et pourquoi racontons-nous la Bretagne? Les réponses tout de suite dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chercheurs en ville. En ce mois de juin 2017, nous recevons Manaïk Thomas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en littérature de langue bretonne. Vous répondrez aux questions de mes confrères Xavier de Bontry. Bonjour Xavier.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Christian Lebar, bonjour Christian.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, Xavier, c'est à vous.
Merci beaucoup Ronan. Ben oui, dire la Bretagne, c'est un joli titre et c'est celui que vous avez choisi de mettre en couverture de ce bel ouvrage, joli ouvrage aussi, que celui qui a été publié aux presses universitaires de Rennes il y a maintenant quelques mois. Un ouvrage collectif que vous avez, dont vous avez assuré la coordination avec votre collègue Nelly Blanchard, Manaïk Thomas, et qui explore les différentes facettes de la manière dont effectivement la Bretagne transparaît à travers des œuvres de littérature, de peinture, d'affiches aussi. Bref, cette manière de dire la Bretagne qui revient de loin, on évoquait à l'instant avec Ronan cette campagne d'affiches passée à l'Ouest. Finalement, on est là dans une espèce de continuité. Pourquoi, c'est ma première question, pourquoi Manaïk Thomas avez-vous choisi de questionner cette singularité bretonne de cette manière-là?
Alors, il y avait plusieurs objectifs à ce projet quand on a lancé donc Dire la Bretagne. Le premier, c'était déjà de confronter des domaines artistiques que l'on confrontait ou que l'on comparait rarement déjà. Nous, donc Nelly Blanchard et moi-même, on est spécialistes de littérature bretonne, de littérature de langue bretonne ou parfois de langue française également. Donc nous, c'était un peu notre domaine privilégié, mais on se rendait compte qu'il y avait des points communs avec les beaux-arts, fréquemment. Et puis, en cherchant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres arts. Et puis, tout ce que, ces réminiscences-là actuelles, on ne sait pas forcément d'où ça vient. C'est ce qu'on peut... Voilà, ces images de la Bretagne qui sont immédiatement identifiées comme la Bretagne. Donc, on voulait chercher à comprendre un petit peu le cheminement de ces différentes images qui sont encore actuelles.
Alors, pour comprendre cette fabrication de l'image de la Bretagne, vous avez appliqué une démarche scientifique, rigoureuse, universitaire. Expliquez-nous comment vous avez tiré le fil de cette pelote bretonne.
Alors, il y a forcément, là, c'est un travail effectivement universitaire. Donc, en tout cas, le livre montre aussi la confrontation de différentes manières de travailler. Nous, en littérature, on a nos concepts, nos modes de travail. On est très influencés toutes les deux par la sociologie de la littérature, donc par les questions de champ littéraire, etc. Et puis, on a dû expliquer à nos collègues qui sont soit historiens, soit qui sont conservateurs de musées, qui travaillent dans les beaux-arts, on a dû essayer de trouver avec eux des outils communs un petit peu et essayer de voir est-ce que un dialogue était possible. Alors, c'est pas forcément évident, en fait, de confronter des traditions scientifiques très, très diverses, de confronter également des chercheurs qui ont des trajectoires très, très variées aussi. Donc, tout cela...
Il a fallu les convaincre, il a fallu peut-être vaincre certaines réticences initiales
Alors, peut-être pas des réticences, mais en tout cas, ce qui n'a pas forcément été évident pour nous, c'était de faire comprendre notre projet. En fait, nous, on est dans ces réflexions-là depuis plusieurs années, finalement, Nelly Blanchard et moi, déjà dès nos thèses. Donc, moi, j'ai fait ma thèse sur le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Essélias. Elle a fait sa thèse sur le Barzaz-Braise de la ville Marquet. Donc finalement, on est dans des réflexions, et puis des réflexions communes aussi. Il faut dire qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Donc on a comme ça un cheminement qui date déjà de nombreuses années. Et donc, il a fallu faire comprendre ce qu'on cherchait. En fait, on ne voulait pas une nouvelle monographie sur les artistes en Bretagne.
Ça allait plus loin que ça.
Voilà, c'était un peu, on voulait éviter ce risque-là, parce qu'il y en a beaucoup, des œuvres voilà, qui présentent les artistes en Bretagne, les artistes à Concarneau, les artistes à Quimper, etc. Nous, on voulait faire autre chose.
Alors, une première question de mon voisin, ami et spécialiste aussi de ces questions-là, d'une certaine manière. Hein. Vous allez pouvoir nous éclairer pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, c'est à vous.
Oui, moi j'aime beaucoup le titre du livre « Dire la Bretagne » parce qu'il est magnifiquement ambigu et très 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 ouvert. Et immédiatement, il pose toute une série de questions un peu sur les frontières de l'objet. Alors en plus, vous l'avez dit, le livre est vraiment très 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 beau, très bien illustré. Et puis il renvoie aussi bien à la littérature, aux beaux-arts, etc. Donc là, il y a cette ouverture disciplinaire qui est vraiment très riche, et même à la musique, je crois. Mais ma question, c'est ceci. Qui dit la Bretagne? Enfin, on peut dire la Bretagne de l'intérieur. Les Bretons disent la Bretagne, mais il y a aussi des Bretons, des artistes bretons, qu'est-ce que ça veut dire, artistes bretons, hein, bon, qui n'ont pas particulièrement envie de célébrer leur territoire, mais qui vont être enrôlés dans un deuxième temps par des entrepreneurs de territoire qui vont leur assigner un rôle qu'eux-mêmes n'avaient pas, dont ils n'avaient pas conscience. Et puis, il y a des tas de gens qui disent la Bretagne de l'extérieur, depuis Paris. Il y a un très beau titre à un moment dans le livre, c'est bon, est-ce que c'est l'État qui dit la Bretagne?
Alors avant de répondre, peut-être Manaïk Thomas, préciser, parce que je ne suis pas sûr, Christian Lebarthe, que vous l'ayez fait à l'instant, que cet ouvrage est aussi le fruit d'un travail et d'un projet porté par la Maison des sciences de l'homme en Bretagne.
Oui, je crois qu'il y a un financement de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, mais ça je vous laisse le dire peut-être.
Oui, en fait, c'est un projet. Donc, ce livre, c'est un projet plus global. Je rebondirai là sur la question de qui dit la Bretagne, parce que c'est vraiment au cœur de nos questionnements. C'est un projet qui s'appelle le point de vue périphérique. Donc, ce qu'on voulait comprendre, c'était en quoi parler de la Bretagne comme une périphérie pouvait nous aider à mieux comprendre un certain nombre de productions littéraires, un certain nombre de productions artistiques, un certain nombre aussi de traits politiques ou idéologiques. Donc ça fait partie d'un projet effectivement qui a été financé par la Maison des sciences de l'homme en Bretagne en trois parties. Et la première partie, c'était vraiment notre cœur de métier, si je puis dire. Nelly Blanchard et moi, on a parlé de la littérature, de la question de la littérature périphérique. En quoi est-ce que cette question de la périphérie, quand on l'applique à la littérature bretonne, ça peut éclairer les choses de manière particulière. Donc ça, c'était l'objet de notre première réflexion. Ensuite, nous avons aussi tout un travail de base de données, cette fois sur des auteurs de langue bretonne, où là, il s'agit de mettre en évidence des réseaux de relations entre auteurs, mais également entre auteurs et artistes, entre auteurs et également agent du champ politique, parce que
une sorte de cartographie finalement.
Voilà, c'est un travail au long cours que nous menons actuellement, puisque nous avons eu beaucoup de mal à borner chronologiquement. Nous voyons une bande chronologique, nous voyons à peu près un début, c'est-à-dire vers 1830-1850, c'est-à-dire un moment où la Bretagne peut être identifiée comme une périphérie parce que le centre, donc Paris, se définit. Au moment où le centre se définit, tout le reste se pose des questions et doit se dire mais au fait, est-ce qu'on est dedans? Ah non, nous on n'est pas dedans, alors qu'est-ce qu'on est? Donc c'est un peu ces questions-là. Donc c'est dans cette base de données là, ça démarre là, et puis ça se poursuit
jusqu'à aujourd'hui.
Je suis né dans un lit clos, ce qui est un meuble extrêmement intéressant, bien entendu. Ce lit clos, je pense qu'on n'a pas suffisamment chanté les louanges du lit clos, parce que c'était une sorte d'armoire à sommeil qui vous enfermait et qui vous mettait exactement chez vous, n'est-ce pas? Vous pouviez entrer dedans, vous déshabiller à l'intérieur, c'était une alcôve, et les autres pouvaient, eux aussi, hommes ou femmes, se déshabiller à côté de vous dans un autre lit clos sans qu'il n'y ait évidemment aucune gêne de part ni d'autre. Et ce lit clos non seulement avait cette forme d'armoire, mais également il servait, avec ses portes qui se fermaient, à garantir les enfants lorsque les parents étaient partis. Il y avait le banc devant qui servait de descente de lit. Le banc était à coffre, alors il y avait les vêtements à l'intérieur. De chaque côté du banc, il y avait des petites tablettes creuses. D'un côté, il y avait le sel, de l'autre côté, il y avait le tabac, traditionnellement, le sel souvenir de la gabelle. Et puis, il y avait également des lits clos, par exemple, chez mon grand-père, je couchais dans un lit clos à deux étages. Nous étions étagés, nous couchions à quatre, deux dessus et deux en dessous, avec trois de mes oncles. J'ai couché dans ce lit clos avec mon grand-père, Alain Le Goff, qui me racontait à longueur de nuit toutes les légendes et les contes. Et alors là, moi, je m'enroulais dans les draps, vous savez. Et puis alors, ma mère qui frappait contre le clos et disait au grand-père, « Antin, Echugenor, Contatraou, est-ce que vous avez fini de raconter des choses à cet enfant ?»
Lorsque vous vous intéressez à cette question de la périphérie en littérature, donnez-nous des exemples pour que nous comprenions bien. Est-ce que ce genre-là, s'il en est un, obéit ou répond à des caractéristiques particulières ?
Alors, c'est pas un genre particulier, mais on s'est rendu compte que nos auteurs de langue bretonne, eh ben, ils lisaient la littérature de langue française. Ça paraît une banalité de le dire, mais forcément, des auteurs qui écrivent en breton ne lisent pas que du breton. Et c'est même l'inverse, ils lisent sans doute beaucoup plus de breton que de français pour des raisons de diffusion. Par exemple, Pierre-Jacques Esselias était agrégé de lettres classiques. Bon, ben forcément, quand on lit son théâtre, on se rend compte qu'il connaît sur le bout des doigts les grands classiques du théâtre.
Et ça influence son œuvre.
Et bien sûr, ça influence son œuvre, forcément. Il veut faire, on pourrait dire qu'il veut faire pour la Bretagne ce que d'autres ont pu faire, ou en tout cas, d'une certaine manière aussi, un peu donner une certaine aura à la Bretagne, montrer que ces personnages-là qu'il décrit dans ses pièces sont aussi universaux que des personnages du théâtre classique, par exemple.
Christian Labarthe.
Mais bon, c'est toute l'ambiguïté du champ littéraire. Vous parlez de périphérie, donc évidemment le mot périphérie est très chargé. Alors, j'allais dire, qu'on le veuille ou non, la littérature dite régionale, l'adjectif est évidemment très, très lourd, la littérature dite régionale est une littérature dominée dans le champ littéraire. Mmh. Et c'est très intéressant de voir comment Giono, par exemple, a pu apparaître comme un écrivain tout court.
Il a perdu
cette étiquette. Mais quand on va en librairie et qu'on regarde la rubrique, le rayon littérature régionale, ça reste quand même littérature. Il y a littérature du terroir maintenant, etc. Alors, Pierre-Jacques Esselias, c'était un peu une exception par rapport à ça. Il a réussi cette espèce de basculement.
Les dates peut-être pour nos auditeurs.
Alors, Le Cheval d'Orgueil, donc ce qui fait que Elias apparaît comme ça, émerge un petit peu tout d'un coup, c'est 1975. Donc en 75, il y a le succès phénoménal du Cheval d'Orgueil. Alors effectivement, là, Elias change de place un peu dans le champ. Il est invité chez Apostrophe, il est invité chez Jacques Chancel. Enfin, tout d'un coup, il prend une dimension nationale très importante qui va expliquer le succès de son livre.
Publié dans la collection Terre des Hommes.
La collection Terre Humaine, Terre Humaine chez Plomb, qui est une collection qui démarre en fait. Jean Mallory veut lancer cette collection-là. Et puis le succès énorme du Cheval d'Orgueil arrive, qui va à la fois lancer la collection et puis lancer Elias au plan national. Alors ce qu'on sait moins, c'est que ça fait longtemps qu'Elias écrit. Il écrit notamment des chroniques dans Ouest-France, il écrit des chroniques bilingues, il écrit beaucoup de choses en breton, déjà depuis longtemps. Il écrit du théâtre, il a fait du théâtre en langue bretonne dès la fin de la guerre, dès 1946, mais il est complètement inconnu au plan national. C'est donc la publication du Cheval d'Orgueil qui lui donne une place dans le champ littéraire. Alors, on peut, en tout cas, ça lui donne une place dans le champ. Après, il reste, en tout cas, on peut... En 75, on ne sait pas trop. Il se trouve qu'il va rester dominé dans le champ littéraire français. C'est-à-dire qu'il n'a pas de prix...
Oui, comment est-il perçu, justement? Vous citiez les émissions nationales auxquelles il va participer, chez Pivot, chez Chancel. Et on le regarde comment? Comme un plouc du Finistère qui vient à Paris? Comme, au contraire, quelqu'un qui a déjà une œuvre derrière lui et que l'on considère comme ça?
On le regarde quand même un peu comme le Breton, hein. Il est quand même celui
qui... Il a sa casquette
qui,
de marin.
Voilà, et alors il joue aussi pleinement ce rôle. Hein. Elias ne cherche pas non plus à... pour lui, c'est une ressource aussi. Hein. La Bretagne, c'est aussi ce qui va faire de lui un auteur qui va avoir une place dans le champ. C'est grâce à ça. Donc, il va exploiter aussi ce filon, en quelque sorte. Ce qui fait qu'il reste un auteur quand même... On le dit pas, pas vraiment régional, pas vraiment régionaliste, mais il reste quand même un auteur à part, même à cette période-là. Alors, ça va se poursuivre encore. Hein. Par la suite, il va écrire beaucoup de romans en langue française, c'est-à-dire qu'il cesse presque d'écrire en breton à ce moment-là, puisqu'il voit aussi que cette reconnaissance nationale lui procure certainement beaucoup de capitaux divers. Donc à partir de ce moment-là, il va écrire presque exclusivement en français, mais on voit qu'il ne va pas réussir à réitérer le succès.
Il n'aura pas, effectivement, on serait bien incapable, je crois, autour de ce plateau, de citer une œuvre postérieure au Cheval d'Orgueil.
Le Diable à 4, voilà, ce sont des l'herbe, et voilà.
Voilà quelqu'un qui a dit la Bretagne, et qui l'a dit, en quelque sorte, dans la langue de l'État, et qui l'a dit auprès d'une communauté qui était nationale et pas régional. Donc il y avait beaucoup d'ambivalence. C'est aussi, on le disait tout à l'heure, une collection, le livre est publié dans une collection d'ethnologie, donc c'est oui. Une vision de la Bretagne un peu ambiguë, et du coup ça explique aussi peut-être les réactions type Xavier Gral, ou des réactions d'exaspération devant une dépossession de la Bretagne qui ne se dit pas elle-même, enfin qui est dite par d'autres, ou qui est dite avec l'instrument des autres.
Oui, tout à fait. Alors, ça reprend la complexité de la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire qui dit la Bretagne? Alors, Pierre-Jacques Essélias a la légitimité d'être né à Pouldreuzic, voilà. Donc il a cette légitimité-là et il ne va pas s'en priver. Il a la légitimité d'être bretonnant également, ce que n'a pas Xavier Gral non plus. Donc, il va jouer clairement sur cette dimension-là, même si, effectivement, les critiques vont venir de toutes parts. Alors, pas tellement des critiques sur sa pratique du breton, mais plutôt des critiques sur son positionnement idéologique. C'est-à-dire, on va lui reprocher de ne pas se servir de cette tribune nationale que lui offre le Cheval d'Orgueil pour revendiquer en faveur de la Bretagne.
Manaïk Thomas, lorsqu'on s'intéresse à cette œuvre-là et peut-être à d'autres également, quelle image de la Bretagne est-elle renvoyée? Si l'on regarde le Cheval d'Orgueil, dans mes souvenirs qui sont désormais lointains, j'en ai gardé l'image d'une Bretagne un petit peu couleur sépia, la jeunesse de Pierre-Jacques Elias, une Bretagne des coiffes et des dolmens et des pardons. C'est un peu ça? C'est un petit peu réducteur?
Alors, c'est un peu ça. Pierre-Jacques Elias, en tant que veut se présenter comme quelqu'un de Bretagne, veut assurer sa légitimité. Il veut donc se faire le porte-voix des Bretons en général. Alors, vous parlez de sa jeunesse. En réalité, il donne l'impression effectivement de raconter sa jeunesse. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des souvenirs d'enfance qui sont des souvenirs d'enfance de son grand-père, qu'en 1914, il n'a pas pu connaître. Mais c'est pas grave. Tout ça, c'est un peu présenté comme l'enfance d'un petit garçon né à Pouldreuzic, on ne sait pas très bien quand, mais en tout cas, il y a une certaine donc continuité dans cette description-là de la Bretagne. Et ce qui intéresse Elias, enfin en tout cas, ce que l'éditeur va lui demander de faire, c'est de montrer le moment où la rupture se crée. Et là, c'est Elias, en tant qu'individu, qui a connu cette rupture qui apparaît. Mais avant cela, donc dans tous les premiers chapitres de l'œuvre, c'est l'histoire d'un Breton, quel qu'il soit. Elias est là pour... ça donne beaucoup de chair, parce que lui, il a des sensations qu'il a connues, il exprime vraiment ses sensations d'enfant, des choses qu'il a pu voir dans les musées. C'est aussi l'explication de cette proximité là qu'on voyait, nous, entre littérature et peinture. C'est-à-dire que dans Le Cheval d'Orgueil, on trouve de véritables scènes picturales. Alors des scènes parfois réelles ou parfois reconstruites dans la mémoire de Pierre-Jacques Essélias.
Christian Labarthe.
Ce serait intéressant de mettre en parallèle le livre de Pierre-Jacques Essélias et le livre d'Edgar Morin, qui il y a quelques années d'écart, mais pas tant que ça, je pense il y a une décennie. Donc on est à quelques kilomètres de Pouldreuzic, ouais, hein, c'est à Plozévet, ouais. et donc Morin arrive, alors là vraiment depuis Paris, là, sans aucune ambiguïté, avec ses sociologues et fait ce livre, La métamorphose de Plozévet, qui est aussi une façon de dire la Bretagne, de dire
ses transformations.
Voilà, ses transformations, sa modernisation, et puis bon, il y avait une très belle, dans l'édition de Poche des années 80, une très belle photo où il y avait une bigoudaine qui rentrait dans une voiture, une déesse, et qui était obligée de baisser la tête. Voilà, c'était le télescopage entre la modernité de l'époque et les traditions.
Alors la particularité d'Elias, c'est qu'il ne veut pas être un ethnologue. Il ne veut pas être un ethnologue de la Bretagne. Lui, il veut exprimer ce qu'a été, alors, la Bretagne de son enfance, mais on voit que c'est bien plus large que ça, une idée d'une Bretagne harmonieuse, une Bretagne du passé. Alors, quand je dis ça, on peut croire qu'Elias idéalise complètement cette Bretagne-là. En réalité, quand on regarde bien, non, c'est une Bretagne qui est aussi dure, c'est une Bretagne qui est violente, mais sa posture littéraire fait qu'il ne veut pas être ni dans la dénonciation, ni dans une explication sociologique ou ethnologique de la situation. Il veut montrer la Bretagne. Alors, il explique à la fin hein, que, voilà, non, c'est pas pour ça qu'il veut retourner dormir dans un lit clos et qu'il veut continuer à manger des crêpes. Non, il a perçu tous les bienfaits que lui a procuré ses études et puis sa vie à Paris.
Manaïk Thomas, depuis le début de cette émission, nous parlons beaucoup de cette figure emblématique de Pierre-Jacques Essélias, alors que nous évoquons un ouvrage plus large que vous avez coordonné, Dire la Bretagne. Est-ce à dire que cette figure-là domine encore, surplombe peut-être ses travaux, et a-t-il été dépassé, remplacé? Qui lui a succédé?
Alors, peut-être avant de voir qui a pu lui succéder, qui y avait avant. Je pense qu'avant, il y a une autre grande figure.
Remettons tout en perspective.
C'est la Ville Marquée. C'est lui qui... alors, c'est Nelly Blanchard, ma collègue, hein, qui est vraiment spécialiste de la Ville Marquée, mais c'est lui qui crée une...
Là encore, donnez-nous des repères de dates
donc,
et de périodes.
C'est 1939 pour le Barzaz-Braise. 1839, pardon, 1839. Pour le Barzaz-Braise, bien sûr. 1839. Donc, là, il est complètement dans ce que je disais juste avant, c'est-à-dire dans cette création du champ littéraire français. Le champ littéraire français a des frontières définies à partir de ce moment-là. Et donc, il faut que ces auteurs bretons se définissent eux-mêmes. Et donc, la Ville Marquée va être complètement là-dedans. Il faut que les auteurs de langue bretonne se singularisent, se définissent, essaient de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils font partie du champ littéraire français ou pas. Et s'ils n'en font pas partie, ben voilà, qu'est-ce qu'ils font de leur côté.
Qui est-il, donc, ce La Ville Marquée, en deux mots, pour le situer?
Alors, La Ville Marquée, c'est un aristocrate, donc voilà, breton, mais qui a vécu toute sa vie à Paris, ou presque. Donc, ça c'est complètement, bien entendu, ça fait complètement partie des éléments pour comprendre le personnage et pour comprendre ce que La Ville Marquée fait. Il est intégré dans des réseaux de bretons à Paris, et cette l'image de la Bretagne qu'il donne est bien sûr complètement imprégnée de sa trajectoire sociale.
Bien sûr, beaucoup de Français sont partis en vacances, sont actuellement en vacances. Beaucoup de Français sont plus précisément en vacances sur la côte bretonne, mais il y a également beaucoup de Parisiens qui n'ont pas pu prendre de vacances. Eh bien, qu'ils se consolent, car tout en restant à Paris, ils peuvent prendre des vacances bretonnes. Puisqu'au cœur de Paris, il y a une colonie bretonne, je dirais même mieux une capitale bretonne, c'est Paris-Montparnasse. Capitale à un point tel qu'il y a une ambassade de Bretagne, monsieur l'ambassadeur.
Oui, une ambassade, un consulat, dirons-nous.
Christian Labarthe.
C'est intéressant parce qu'on est au 19e siècle, donc quand même la grande période de l'entreprise républicaine, mais aussi monarchique avant, visant à faire exister la communauté nationale, y compris, je pense aux travaux d'Anne-Marie Thiès, comment est-ce que la littérature vraiment participe de ça. Et La Ville Marquée, il est forcément du coup un peu en marge, parce qu'il il participe d'une autre territorialité.
Oui, c'est ça. Alors, il y a La Ville Marquée. Après, un petit peu plus tard, et notamment dans toute vraiment la fin du 19e, début du 20e, là, toute cette période régionaliste qui est très très bien analysé par Anne-Marie Thiès, montre aussi cela et montre aussi cette relation constante au centre. C'est-à-dire que tous ces auteurs-là qui sont qualifiés de régionaux, ça ne veut pas dire qu'ils restent dans leur région, qu'ils sont édités par des éditeurs régionaux et qui... Non.
Et parce qu'ils sont enrôlés dans l'entreprise de fabrication d'une communauté nationale qui se reconnaît aussi dans sa diversité. C'est-à-dire on va célébrer la Provence, on va célébrer la Bretagne, on va célébrer l'Aquitaine, etc.
Oui, c'est tout à fait ouais. ça. C'est-à-dire que le centre a besoin de sa périphérie. Ouais. Pour
alors,
se définir.
Manaïk Thomas, vous avez rappelé à juste titre les origines de cette manière de dire la Bretagne qui vient de loin et qui est parfois très parisiano-centrée, en tout cas à ses origines. Mais aujourd'hui, si l'on prolonge, on a parlé des années 70-75 avec Père Jacques Ezelage, et aujourd'hui, qui dit la Bretagne avec le pluriel qui s'impose évidemment?
Alors, peut-être juste avant Elias, mais Elias n'est pas le seul dans les années 70. Dans les années 70, il y a aussi tout un courant très militant qui donne une image, mais alors complètement opposée à celle d'Elias. Je pense à Paul Keinec, à Yann Berpiriou. Donc ce sont beaucoup d'auteurs, souvent des poètes. Alors Keinec en français, Piriou en breton, qui eux donnent une vision complètement revendicative de la Bretagne.
Là, on est dans le militantisme. Là.
Dans le militantisme breton, alors le militantisme des années 70, alors on est dans toute cette idéologie de Bretagne colonie, etc., de l'Union démocratique bretonne, donc l'UDB.
C'est l'époque des plastiquages du FLB.
Voilà, alors ça fait déjà deux discours sur la Bretagne qui sont complètement contradictoires, hein, entre Elias d'un côté et eux de l'autre, et complètement opposés, et il y a aussi une opposition claire.
Et pourtant concomitant sur le plan des dates.
Et complètement concomitant, là on est dans les années 70. Alors ce qui est assez curieux ou assez étonnant, c'est que finalement, que ce soit Elias ou que ce soit ces poètes militants, ces deux visions-là de la Bretagne sont très très marginales finalement par rapport à la réalité, alors la réalité avec tout, mais en tout cas au moment où les paysans bretons deviennent des agriculteurs, achètent des tracteurs, arrasent des talus, Elias célèbre une Bretagne,
mais alors des chemins creux,
des chemins creux et des petites parcelles, etc. Et puis au moment où ces paysans vont vers le productivisme, l'agriculture intensive, etc., ces militants de l'UDB, eux, veulent alors une Bretagne qui serait écologique, une Bretagne où on parlerait breton, alors que...
Vivre et travailler au pays, c'est
voilà,
ce qu'on dit aussi à l'époque.
Voilà,
hein.
Alors qu'au même moment, les agriculteurs changent complètement leur mode de production, beaucoup de Bretons quittent la Bretagne, etc. Donc finalement, ces deux visions-là sont très loin de la réalité des années 70 et 80.
Et en même temps, c'est pas si étonnant que ça, je veux dire que la nostalgie, en quelque sorte, des racines, d'une culture, etc., se développe justement au moment où il y a alignement sur des modes de vie qui sont nationaux, ce que disait bien Edgar Morin. Finalement, ça me paraît assez facile à comprendre. Enfin,
oui, et c'est sans doute le rôle de la littérature, c'est-à-dire de faire digérer des choses qui sont des pertes, qui relèvent aussi d'une insatisfaction face au présent. Hein. Ces poètes de l'UDB, là, ils sont sans doute insatisfaits face à la Bretagne telle qu'elle est, la Bretagne qui arrête de parler breton, la Bretagne qui change complètement son mode de vie. Donc effectivement, c'est sans doute là le rôle de la littérature, d'aider à faire prendre conscience et à faire passer finalement ces grands changements sociaux.
Alors, pour dire la Bretagne, il y a évidemment la littérature, mais il y a aussi la musique. Je vous propose de faire une petite pause musicale dans cette émission. Nous allons tout de suite écouter un morceau de Jan Tiersen, In Our Minds. C'est maintenant.
Thiersen, In Our Minds, à l'instant dans Chercheur en Ville. Comment dit-on la Bretagne? C'est la question que nous posons depuis le début de l'émission. Une région qui inspire de nombreux artistes. On a cité l'exemple de l'écrivain breton Pierre-Jacques Hesselias, qui a en quelque sorte fait la promotion de la Bretagne dans les cercles parisiens. On est donc revenu sur l'image qui était véhiculée dans les œuvres littéraires, avec un folklore qui n'est jamais très loin. Qu'en est-il aujourd'hui? Qui peut incarner et dire la Bretagne? Eh bien, on pose la question à notre invité Manaïk Thomas, maître de conférences en littérature de langue bretonne, qui répond à Xavier de Bontride et Christian Lebar.
Manaïk Thomas, revenons sur cette modernité de se dire la Bretagne, le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné avec Nelly Blanchard. Aujourd'hui, les figures qui incarnent le mieux, et peut-être dans toutes les disciplines, nous avons beaucoup parlé de littérature depuis le début de cette émission, mais il y a d'autres formes d'expression picturale, musicale, on l'a dit. Aujourd'hui, le paysage, il est occupé par qui et de quelle manière ?
Alors, il me semble que finalement, la dimension artistique a laissé pas mal la place. Cette manière de dire la Bretagne, maintenant, elle est beaucoup plus institutionnalisée. Et c'est aussi la région Bretagne qui dit énormément la Bretagne. Donc la région, toutes les collectivités territoriales exploitent aussi le monde économique.
Il y a même une marque, la marque Bretagne, avec sa charte graphique.
La marque Bretagne, produit en Bretagne. Enfin, on voit qu'il y a aussi disons que cette manière-là de dire la Bretagne, maintenant, est sans doute moins présente dans le domaine artistique, mais plus présente dans le domaine économique, politique, voilà, parce qu'elle est aussi une ressource économique et une ressource pour le tourisme.
Il y a une forme de récupération de ce domaine-là ?
Alors, récupération, ou en tout cas une réappropriation de toutes ces images qui ont été façonnées au fil du temps.
Christian Labarthe.
Et du coup, ça pose quand même la question des contenus. On a l'impression que les images qui sont véhiculées dans le cadre de ce que dans ma discipline à moi, on appelle le marketing territorial, sont quand même des images extrêmement stéréotypées qui peuvent nourrir un peu une impression, y compris quand elles émanent du conseil régional lui-même, hein, une impression de dépossession ou en tout cas de plaquage d'un imaginaire dont les Bretons sont assez largement dépossédés. Alors que à une époque où dire la Bretagne était plutôt le fait des artistes, même si ces artistes pouvaient être utilisés, voire instrumentalisés, il y avait quand même, vous le disiez très bien sur Pierre-Jacques Hesselias, il y avait quand même une certaine complexité. Enfin, on jouait avec les stéréotypes, mais voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas un peu s'inquiéter de cette réduction?
Oui, ça donne l'impression d'un certain figement. En fait, il y a certains traits là qui sont figés et qui, finalement, à force d'être repris, deviennent effectivement des clichés, des idées reçues. Et tout ce qu'on entend sur, je ne sais pas, une Bretagne résistante, une Bretagne rebelle, ça devient un peu comme ça un cliché. C'est la doxa qui dit ça.
Alors, il y a une ligne officielle aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, de cette manière de dire la Bretagne, on l'exprime d'une certaine manière et surtout pas d'une autre.
Disons qu'il y a certains traits qui sont mis en avant par rapport à d'autres, ça c'est une évidence. Alors c'était le cas aussi, hein, depuis finalement chaque artiste choisit certains traits qu'il veut exprimer, soit par le discours, soit par la peinture. Alors, maintenant, il faudrait vraiment, vraiment étudier les choses précisément, mais on avait l'impression peut-être d'une certaine diversité, milieu du 19e, etc. Et puis peut-être là, de quelque chose effectivement qui se fige. Alors, sans parler d'une ligne officielle qui serait dictée ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, quelque chose qui est exploité, parce que à des fins touristiques, et c'est sans doute plus facile d'exploiter une dimension très, très précise, qui va parler immédiatement dans le métro à Paris, qui, comme elle peut parler n'importe où, parce que c'est un message aussi qui est simple, qui est complètement... Qui
c'est perd quoi
aussi,
ce sont les paysages, c'est la musique, la culture, l'art de vivre.
Oui, globalement, ce qu'on appelle l'identité forte de la Bretagne, c'est aussi quelque chose qui est construit au fur et à mesure par les discours, et puis là, qui est resservi à longueur de temps. Cette identité forte-là de la Bretagne n'est aussi qu'un... que ce soit en quelque sorte les restes là de de toutes ces œuvres artistiques, de toutes ces œuvres littéraires qui ont choisi certains éléments et qui sont devenus comme ça, cette question d'identité.
Mais alors du coup, pour prolonger la question de Xavier, si ça veut dire que la gestion de ces imaginaires ou de cette image de la Bretagne a basculé du monde culturel au monde des institutions, y compris au monde économique, la question serait, est-ce qu'il y a des écrivains, est-ce qu'il y a... alors c'est peut-être plus du côté de la musique que du côté de la littérature, mais si on reste...
Qui sont les ambassadeurs aujourd'hui de la Bretagne?
Est-ce qu'il y a des écrivains qui disent la Bretagne de 2017? Est-ce qu'on peut se risquer à donner des noms?
Alors, des écrivains dont on n'a pas encore parlé, ce sont tous les écrivains qui écrivent en langue bretonne. Mais finalement, en langue bretonne, on voit un phénomène assez similaire. C'est-à-dire que beaucoup d'écrivains de langue bretonne disent tout sauf la Bretagne dans leurs œuvres. C'est-à-dire, en breton, ça fait aussi partie d'un message politique qui est transmis actuellement. En breton, on peut parler de tout. Donc on peut parler
du monde
entier, la Bretagne est universelle. Il y a aussi tout ce discours-là qui ressort dans la littérature en langue bretonne, où à une certaine période on parlait effectivement du local, essentiellement, et puis progressivement, et là c'est flagrant actuellement, on va parler de tout sauf de la Bretagne.
Citez-nous quelques auteurs que nous ne connaissons pas forcément spontanément.
Alors, je pense comme ça à Jean-Philippe Dupuy, qui est un auteur de langue bretonne, mais qui effectivement... Alors, je le cite parce qu'il a écrit un recueil de nouvelles bilingues. Donc, ces nouvelles, on la Bretagne pour décor en général, mais il parle de choses beaucoup plus larges, bien sûr, des questions notamment identitaires, des questions d'identité au sens d'identité personnelle, qui s'exprime là dans ces nouvelles en langue bretonne et en langue française.
Et la poésie, qui est aussi une manière de dire la Bretagne. On pense par exemple à Yvon Le Maine, mais il y en a d'autres.
Oui, il y a donc effectivement Yvon Le Maine, Paul Keinec aussi, qui sont deux poètes. Alors on peut qui disent la Bretagne. Après, il faudrait vraiment, je pense, étudier leurs œuvres pour voir comment cette image a évolué et comment elle a évolué dans leurs œuvres. Alors, compte tenu de leur parcours personnel à tous les deux, mais compte tenu aussi de la réalité de la Bretagne actuelle. La Bretagne actuelle n'est plus celle des années 70. Alors comment fait-on actuellement pour dire la Bretagne? Ça ouvre effectivement. Une autre question qu'on se posait, c'était est-ce que les artistes contemporains, au sens artistes picturaux, disent la Bretagne? Et là, on reste un peu sur notre fin aussi. C'est-à-dire que ça reste une question posée. En fait, il nous semble qu'au moment où... La Bretagne a complètement basculé dans la modernité à partir des années, c'est un processus, à partir des années 50. Tout ce qui relevait de ces images de la Bretagne, là, ont perdu de leur réalité. Et donc, les artistes contemporains, il y a un article là de Françoise Daniel sur eux, est-ce qu'ils continuent à dire la Bretagne? C'est une question qui se pose toujours.
Avec comme hypothèse que du coup, la gestion de l'imaginaire associé à la Bretagne soit plutôt du côté des arts entre guillemets populaires. C'est-à-dire, si on regarde pas les fictions sur France 3, effectivement, on va encore voir de la Bretagne à coiffe, quoi, traditionnelle.
Mais... Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Dans le livre, il y a aussi un article de François de Beaulieu sur les cartes postales, qui montre cette évolution des cartes postales d'une Bretagne très très picturale. Et finalement, il dit que la carte postale la plus vendue, c'est la carte postale qui marque juste un drapeau breton. On est passé des images de la pointe du rat, la recette de crêpes, à la carte postale qui apparaît. Donc ça va aussi avec cette idée d'une image un peu figée qui bouge plus beaucoup, quoi.
Le vrai enjeu du design, c'est plus une question plus culturelle. C'est comment en fait donner une forme à la culture. Et c'est ça qui est étrange. Si on va dans un musée de civilisation, très souvent en fait ce qui reste des civilisations anciennes sont des objets, des armes, des choses très utilitaires.
Vous évoquiez à l'instant les artistes contemporains qui peuvent incarner cette Bretagne. Vous savez qu'ici à Rennes, la ville a fait appel aux designers Bouroulec, les frères Bouroulec, pour réfléchir à une œuvre qui pourrait prendre place sur l'espace public. Évidemment, ils sont internationaux aujourd'hui et pourtant ils cultivent aussi, ne serait-ce que par leur patronyme, ces racines-là. Qu'est-ce que cela peut-être peut vous inspirer? Est-ce que c'est aussi une manière de dire la Bretagne quand on est plus célèbre à New York, à Hong Kong qu'à Rennes?
Oui, alors c'est, je pense qu'on est toujours là dans la question du rapport entre le centre, alors qui n'est sans doute, en tout cas pour le monde artistique, n'est sans doute pas Paris, mais maintenant sans doute plutôt New York, la question du rapport entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire le petit plus que peut donner la périphérie, y compris à quelqu'un qui est complètement reconnu dans le centre. Est-ce que voilà, ça peut lui donner un petit supplément par rapport à d'autres artistes complètement reconnus et complètement dominants dans le champ?
Christian Lebarthe, encore une question.
Les géographes écrivent des choses assez intéressantes sur ce que paradoxalement on pourrait appeler la déterritorialisation des identités territoriales, sur le fait que les imaginaires associés à la Bretagne peuvent circuler à la Maison de la Bretagne à Paris, à l'international, etc., avec des risques des processus de déterritorialisation, de volatilité, de numérisation, etc. Personnellement, ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire, quand on se balade en Bretagne, la spécificité du territoire n'est pas forcément frappante. Et en même temps, les imaginaires qui sont associés sont vraiment plus que jamais spécifiques.
Oui, alors c'est pas. Il y a un article à Dany Lebert qui parle des commandes et des achats de l'État pour les œuvres d'art, justement, et pour les musées nationaux, et notamment aussi pour les œuvres d'art qui vont être distribuées à l'étranger. Et elle constate que la Bretagne est largement majoritaire dans les œuvres d'art qui sont distribuées dans les ambassades, etc., à l'étranger. Donc finalement, ça c'est un phénomène, là en tout cas, elle le montre comme un phénomène relativement ancien. Elle montre aussi la présence très importante de la Bretagne dans les achats et les commandes de l'État. Avec cette question, que fait l'État des œuvres représentant la Bretagne qu'il achète? Est-ce qu'il les laisse dans les musées bretons ou est-ce qu'au contraire, il cherche à les diffuser un peu partout en France et à l'étranger? La réponse n'est jamais oui-non. En tout cas, à une période, ça reste majoritairement en Bretagne. Et puis ensuite, on constate que les œuvres circulent, sans doute avec cette idée d'identifier aussi d'identifier la nation, quel que soit le musée, quelle que soit la région que l'on fréquente.
Il y a aussi une dimension que vous explorez dans votre ouvrage collectif, c'est celle de l'architecture et des formes urbaines. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Vous avez été sollicité, Daniel Le Guédic, notamment pour un article sur la fameuse maison néo-bretonne. Qu'est-ce que cela nous dit de la Bretagne?
Alors justement, il explique qu'on parle de maison néo-bretonne, qu'on peut éventuellement parler de maison néo-néo-bretonne, c'est-à-dire il montre aussi que c'est une construction, bien sûr, enfin une construction au sens, oui,
bien au sûr, sens imaginaire,
au sens
du
propre,
terme,
mais aussi au sens figuré, hein, cette maison néo-bretonne. Alors c'est un article assez court, mais qui s'appuie, je pense, sur son article sur les expositions universelles, où il montre l'évolution aussi de l'image de la Bretagne dans les expositions universelles, alors celle de 1900 notamment.
Avec les pavillons, c'est ça?
Voilà, et le fameux village breton de l'exposition universelle de 1900. Donc là, il explique bien que ce sont les Bretons de Paris qui sont à la manœuvre là, pour la création de ce pavillon. Et là, on est dans une image de la Bretagne, alors on va dire traditionnelle. Et il montre une évolution très importante en 1937, où là, ce pavillon breton de l'exposition universelle est pris en charge par les Seyss-Breur. Et donc là, complètement, on est dans une image complètement différente.
Il faut peut-être rappeler ce qu'est ce mouvement artistique.
Alors c'est un mouvement artistique qui se revendique de la modernité et justement de la rupture complète avec la Bretagne, en tout cas les représentations de la Bretagne précédentes en effet.
Cette manière de dire la Bretagne, encore une fois, quelle réaction a suscité votre travail? Est-ce que à la publication de cet ouvrage, vous avez eu des commentaires, peut-être des critiques, parce que vous déconstruisez aussi un petit peu certaines représentations ou certaines idées reçues?
Alors, on a eu directement assez peu de commentaires ou de critiques négatives. C'est vrai qu'il y a une volonté de désacralisation, un petit peu. Quand on fait un projet de recherche qui s'appelle le point de vue périphérique, déjà, ça peut heurter, et ça heurte, certes, certains. Donc effectivement, c'est des critiques qu'on a pu avoir, qu'on a pu entendre sur comment ça, c'est périphérique, comment ça, voilà. Nous, notre but n'est pas du tout de stigmatiser ou d'émettre des jugements de valeur, c'est essayer de comprendre comment ça marche. Alors c'est vrai que parfois, essayer de démonter, c'est pas toujours très agréable et on voit un peu comment ça fonctionne. Mais...
Manaïk Thomas, est-ce que vous avez eu des réactions aussi du monde politique breton? On a eu un ministre de la Défense de la Bretagne, certains l'appelaient ainsi, Jean-Yves Le Drian, il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. C'est une figure marquante qui est associée immédiatement au territoire dont il est issu. Est-ce que là-dessus, il y a eu aussi des échos périphériques peut-être?
Et non, pas de réaction. Pas de réaction. Pourtant, je pense que ça pourrait être intéressant. Un dialogue et une discussion pourrait être intéressant. Effectivement, Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Le Boulanger... il est intéressant de voir, là je parle dans le livre, je fais un court article sur Angela Duval, il est intéressant de voir comment quelqu'un comme Jean-Michel de Boulanger peut aussi reprendre cette figure d'Angela Duval, qui est une figure complètement protéiforme, dans laquelle finalement on peut piocher tout un tas de choses, une figure qui devient presque une allégorie de la Bretagne en elle-même.
Jean-Michel Le Boulanger, rappelons-le pour nos auditeurs, qui est vice-président du Conseil régional en charge de la culture et de ces questions autour de l'identité bretonne. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Christian Le Barthes.
Oui, dans le même sens, je pense que c'est assez intéressant de comparer un peu ces notables de la deuxième moitié du 19e siècle qui, dans une logique qui était souvent conservatrice, catholique traditionnelle, etc., ont investi dans l'identité régionale, et de comparer avec la façon dont les élites politiques aujourd'hui, on a donné des noms il y a deux secondes, vont un peu de la même façon investir dans l'identité bretonne ou dans la prise en charge des intérêts de la Bretagne, mais aussi à l'échelle quand même d'un État-nation et avec des regards portés sur Paris.
Oui, tout à fait. Alors, vous parliez de la deuxième moitié là, du 19e siècle. Il y a aussi, disons que... Il y a plusieurs images finalement qui se superposent, mais au moment de la création de la Bretagne touristique, par exemple, l'idée, c'est de rompre avec... cette Bretagne un peu ancienne, un peu poussiéreuse, et de, puisque tourisme il doit y avoir, autant essayer de faire des visiteurs de la Bretagne des touristes un peu éclairés. Mmh. Et c'est le sens des travaux d'Aubert, Octave-Louis Aubert, Auguste Dupuis, Peinture Améeux, en fait, tous ces artistes-là veulent aussi un petit peu dépoussiérer ce qui semblait déjà être une image poussiéreuse de la Bretagne. Et effectivement, là, la dimension touristique était aussi très, très, très présente.
Oui, parce que l'imaginaire associé à la Bretagne bascule quand même à partir d'une image qui est quand même très un peu celle de Balzac dans Les Chouans, enfin très très Bretagne très sauvage, très très dangereuse, enfin très très insaisissable, à une Bretagne entre guillemets civilisée où il fait bon passer ses vacances, et ce glissement-là il se fait en moins d'un siècle.
Oui, tout à fait, parce que les artistes vont choisir certains traits en raison de leur positionnement dans le champ artistique, en raison de leur positionnement dans le champ littéraire. Ils vont mettre en évidence certains éléments. Et puis, au fur et à mesure, tout ça va aussi évoluer. En fonction, quelqu'un qui aura des intérêts différents va prendre la ressource Bretagne, en tout cas va mettre en évidence dans le discours des éléments qui peuvent être complètement différents et complètement contradictoires. C'est pour ça qu'on a l'idée aussi d'une Bretagne qui est très malléable, en fait, une malléabilité de cette image de la Bretagne.
Bonsoir, bienvenue à Antenne 3 Bretagne. Étranger, Moyen-Orient, le cheikh Aziz Tarek s'est rendu de la Mecque à Baalbek et en ce moment discute les problèmes intrinsèques à l'ambassade grecque au Koweït. Étranger, toujours, à Paris, Jacques Chirac a remis un chèque aux jeunes de la fac de l'ESSEC. Quelques prises de bec, pourtant, avec des mecs très incorrects de Supélec qui l'ont traité de tête de cake. Bretagne, enfin. Dans une discothèque de Ploumélec, la police, après enquête, a mis en échec un réseau de coques et de crack planqués dans des bons becs, des carensacs et des pastèques. Sans deck.
Manaïk Thomas, nous arrivons presque au terme de cette émission. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Cet ouvrage a été publié en 2016, Dire la Bretagne. Sur quel chantier travaillez-vous aujourd'hui? Y aura-t-il une suite, un prolongement? Est-ce qu'il y a des pans de ce questionnement pluriel que vous n'avez pas complètement exploré et que vous souhaiteriez approfondir?
Alors, oui, forcément, je pense qu'on est toujours un petit peu dans ces questionnements-là. Moi, à titre personnel, je m'intéresse justement aux auteurs qui disent la Bretagne en français. Puisque là, dans cet ouvrage-là, on a surtout parlé des auteurs qui disent la Bretagne en langue bretonne. Et notamment à partir de cette deuxième moitié du 19e siècle, là, que ce soit Le Braz, Le Goffic, Dupuy, essayer de comprendre comment ces auteurs qui sont intégrés dans des réseaux de centralité, voilà, Le Goffic, il est académicien, donc l'Académie française, on fait difficilement plus au centre que ça dans le champ littéraire, essayer de comprendre quelle place il occupe. Et comment est-ce qu'on le qualifie? Est-ce qu'on le qualifie d'auteur régional, de régionaliste? Et aussi comment ces auteurs... quelle est un peu la postérité de ces auteurs? C'est-à-dire, dans les manuels scolaires, est-ce qu'ils ont une place ou pas? Essayer de comprendre aussi comment on a pu faire d'eux des porte-parole par la suite, hein, au fur et à mesure des siècles. Ils se définissaient-ils comme régionalistes? Je ne sais pas, ça doit dépendre. Mais on a aussi fait d'eux des porte-parole de la Bretagne. Donc, voir aussi la postérité de ces auteurs-là.
Et comment est-ce qu'un Chateaubriand, par exemple, du coup, va quasiment être un contre-exemple, alors que...
Oui. Alors là, on ne dit pas Chateaubriand, auteur breton, ouais, ou écrivain breton. Jamais. Alors pourquoi? Effectivement. Parce que quand on voit cette étiquette-là, il faut voir aussi...
Et pourtant, ceux à qui Combourg, Saint-Malo,
ben voilà,
Le Grand
Bé. Mais ceux à qui on ne... n'accole pas cette étiquette, et pourquoi on ne leur accole pas? Pourquoi est-ce que certains ne sont pas du tout labellisés bretons, alors que d'autres le sont complètement?
Alors, pourquoi? Vous avez un début d'explication,
ben,
peut-être?
C'est en cours actuellement. Je peux difficilement donner là une réponse, mais...
Vous travaillez sur ce sujet.
Je travaille là-dessus, voilà. De nouveau, c'est clair que l'appartenance au centre, aux institutions du centre... pourra sans doute permettre de donner une réponse, en fait. Et la position de domination ou non à l'intérieur, dans le champ littéraire, pourra donner sans doute des réponses à ces questions.
Et la relève, la manière dont aujourd'hui, en 2017, cette image de la Bretagne est incorporée dans la création littéraire, culturelle, artistique, musicale, vous la voyez prendre quel chemin?
Alors là... c'est difficile de faire des prédictions ou d'imaginer la suite. Je pense qu'il y a un article là de Françoise Daniel dans l'ouvrage qui montre bien que la création contemporaine, en tout cas en peinture, il est très intéressant de voir. Il y a des travaux vraiment très intéressants sur cet artiste qui s'appelle Rivet, qui notamment travaille sur l'agriculture et qui recrée des tracteurs bretons. Donc lui, il est complètement aussi avec beaucoup d'humour et de dérision, hein, dans cette image de la Bretagne. Oui, alors la Bretagne, c'est aussi les tracteurs, l'agriculture, etc. Et donc, il joue aussi de cette image. Donc là, il y a une forme d'autodérision.
Degré,
voilà, c'est ça.
Dans une logique vraiment très postmoderne,
voilà.
de rapport très distancié aux ancrages.
Voilà, en tout cas, c'est cet artiste-là auquel je pense là maintenant, mais il y a sans doute, ça ce serait aussi des domaines en fait à...
Mais est-ce que c'est pas la définition du kitsch alors?
Tout à fait. Ma collègue Nelly Blanchard a justement travaillé sur kitsch et effectivement sur cette... comment peut-on définir le kitsch en effet?
Voilà, Manaïk Thomas, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Christian Lebart et moi-même, vous avez apporté un éclairage très, très complet sur cette manière plurielle, encore une fois, de dire la Bretagne. On suivra avec beaucoup d'intérêt la suite de vos travaux sur les pistes que vous venez d'évoquer à l'instant. C'est la fin de Chercheurs en ville. C'était la dernière émission de la saison. Toute l'équipe vous souhaite un très bel été à l'écoute de Canal B.